La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche que j'ai intitulée « Retour sur les marchés et les foires de jadis en Basse Marche ». Pour les textes, nous avons fait appel à Albert Gourceau, la société rurale traditionnelle en Limousin et Basse Marche, Georges Descherat, Jour de Gloire, Pierre Valin, paysan rouge du Limousin, Florence de Guy, au pays de la Fileuse, l'abbé Granet, Histoire de Bellac, Paul Malbet, Vaqueur, les institutions de Bellac sous l'Ancien Régime, Roger Drouot, la monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, Louis Texier-Olivier, statistique du département de la Haute-Vienne de 1808, Claude Dahadoun, histoire de Blon, et Louis Peignot, bergère, éternelle bergère.
La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Nous avons déjà abordé ce sujet des anciennes foires de la Basse Marche. Nous l'avions fait en nous appuyant sur des écrits de Georges-Emmanuel Clancier. Nous avions aussi développé des activités originales, comme celle des languayeurs, ceux qui vérifiaient que les porcs ne soient pas ladres, ou celle des arracheurs de dents ou des marchands de cheveux. Certes, l'activité des foires et des marchés est bien à l'origine du développement d'un certain nombre de nos bourgs. Blon est un terme d'origine gauloise qui pourrait signifier le marché de Blatos ou le marché au blé. Voulon, odorat, pourrait être le marché de Volo. Et Rancon serait sans doute le marché sur la hauteur. Nous allons revenir dans cette chronique sur l'importance économique de ces marchés et de ces foires, qui sont les vrais lieux de la vie marchande et aussi des échanges sociaux. Jusqu'à la guerre de 1914, écrit Albert Gourceau, la quasi-totalité des ventes et des achats de la ferme s'effectuait aux foires des environs et du marché local. Jadis, le marché de la petite ville se tenait presque toujours le dimanche matin sur la place de l'église. La fermière y portait régulièrement dans un panier d'osier à couvercle son beurre, étalé sur une feuille de chou, ses fromages blancs enveloppés de deux feuilles de vigne et quelques douzaines d'œufs. Enfin, dans un grand panier en éclisse de châtaignier, une paire de poulets, un canard, un lapin et, à la saison, tantôt de belles cerises noires à clafoutis, tantôt des prunes, des pommes, etc. Parmi toutes ces paysannes réunies sur la place en groupe compact et animé, circulaient les dames du bourg, les femmes des notables suivies de leurs bonnes, et dans les petites villes de garnison comme Magnac-Laval, et j'ajoute comme Bellac, les femmes des officiers accompagnées de leurs fidèles et dévoués soldats ordonnance.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Voici un poème de Georges Descherat qui nous décrit la foire de Bellac en 1900. Le jour de foire en 1900, les Bellachons sont à la fête. Obereaux, bourgeois et manants vendent, discutent ou bien achètent. La grande place, couleur de blé, mêle ses bœufs, ses veaux, ses vaches, et des maquignons obsédés avec des paysans se fâchent. « Ah, voilà une belle bête !» dit très sérieux un acheteur. « Ah, c'est certain, j'en veux 800 francs. Tapez-la, honnête vendeur. » Et les transactions vont bon train, émaillées de grands coups de gueule. Ce n'est pas rendez-vous mondain et les prix subissent la meule. Tous les estaminets sont pleins. On boit, on rit, on gesticule, dans une agitation sans frein et l'argent des poches bascule. Voici le marchand de couteaux, lançant des lames sur sa caisse. 10 francs les trois, c'est un cadeau pour offrir à votre maîtresse. Le pâtissier n'est pas en reste. Un vrai régal pour le palais. Approchez, car je suis modeste. Aucun gâteau n'est indigeste. Et puis, je puis vous faire un rabais. Allons vers le vendeur de cordes, qu'avec méfiance l'on aborde. Voici pour la belle maman. Ne me croyez pas si je mens. La seconde est pour le grand-père, la troisième pour le gros veau, la quatrième est pour le sot. Sur un trottoir, dans une rue, un parapluie s'est retourné qui contient chansons et revues. Une ogresse à l'accordéon débite près d'une cohue des rengaines du temps passé. Ou quelques airs de nouveauté. Et son mari, un polisson, vous met en main la partition. Ah, qu'il était vivant, Bella. Partout, on respirait la joie que complétaient moult soldats. La ville, hélas, plus ne flamboie. La foire, écrit Pierre Valin dans Paysan rouge du Limousin, qui concerne la région de Compreignac et le nord de la Haute-Vienne, la foire donc est dans le monde paysan l'événement qui tranche sur la routine quotidienne. C'est l'occasion pour les habitants des villages, en fait des hameaux, de se rendre au bourg, de rencontrer des connaissances et d'échanger des nouvelles, de boire au cabaret, de faire quelques emplettes auprès des marchands forains et au début de l'année d'acquitter les impôts auprès du percepteur. Mais toutes les dépenses un peu inhabituelles sont subordonnées à la réussite de l'opération économique capitale, la vente de la vache ou du veau à bon prix. La foire, lieu de contact avec l'environnement social, est aussi l'endroit où l'on retrouve le marché national. Mais en réalité, si le cours du bétail que publient les journaux dès les années 1890 sont bien fixés par la Villette, c'est le maquignon ou le boucher qui décide sur le terrain. Les fluctuations des cours sont admises par les paysans d'autant mieux qu'elles paraissent ressortir à un domaine qui leur échappe totalement. Pierre Valin de préciser qu'il existe à Compreignac des marchés hebdomadaires dès 1849 pour la vente des denrées de consommation journalière comme les œufs ou les légumes. Mais l'élément économique fondamental de nos campagnes qui permet les échanges, qui permet de faire entrer de l'argent frais, ce sont les foires. Il nous explique qu'à Compreignac, elles ont été instituées par lettre patente de Henri IV, en 1597, et que depuis le début du XIXe siècle, elles se tiennent immuablement le 8 de chaque mois. Et il donne quelques chiffres. En moyenne, en 1935, le nombre de bêtes vendues était de 200 bovins, de 300 à 350 ovins et de 100 à 150 porcins. Il ajoute que la plupart des communes environnantes possèdent aussi leur foire, souvent d'ailleurs spécialisée, foire aux bestiaux à Bellac ou foire aux pommes de terre en Bazac, par exemple. Notons que ces foires sont aussi souvent l'occasion donnée aux paysans de se distraire de leur travail et de fréquenter, bien sûr, les staminets. Les foires sont aussi des hauts lieux de la discussion politique et que les campagnes électorales les suivent assidûment dans toute la circonscription. Florence de Guy, la romancière de Bellac, dans « Au pays de la fileuse », nous décrit la foire. Le plus souvent, la foire se tenait un jour de classe. Marie traversait alors le foirail bondé. Dissimulant sa peur, elle passait tout près des vaches aux longues cornes et parfois aussi près d'un taureau, la tête basse, l'air sournois. En vacances, elle se levait de grand matin les jours de foire. Elle regardait toutes les petites charrettes à ânes, les mouvements saccadés des gens assis sur la banquette étroite. Elle aimait voir, sur de modestes planches protégées par un grand parapluie rouge, les pâtisseries de ce jour. Craquelin léger qu'apportait un vieux bonhomme, l'air doux, sous son chapeau large, casse-museau rond, lourd, indigeste. À la saison, les piles de melons énormes s'écroulaient. Quelques-uns, rugueux, tachés de gris sur vert, semblaient avoir des peaux de reptiles. Le soir, toutes les voiturettes repassaient menées par leurs petits ânes à l'air têtu et doux. Ils repartaient sur la route au beau être.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Voici comment Albert Gourchaud nous parle, lui, des foires. Les foires, on s'y sentait chez soi. Même les plus timides, les plus craintifs s'y promenaient en conquérant, parlant haut, faisant de grands gestes, ne redoutant pas de prendre la parole pour participer à ces longs marchandages qui précèdent obligatoirement toute transaction. La Haute-Vienne était ainsi couverte d'un réseau serré de foires, car chaque bourg avait la sienne. Mais la grande particularité de ces foires résidait en ceci, qu'on n'y faisait pas seulement le commerce de bétail, mais aussi de mercerie, d'étoffes et de vêtements et de chaussures et même de quincaillerie. En outre, lorsque la foire proprement dite était finie, il y avait bal à l'auberge jusqu'à la nuit pour les jeunes gens et les jeunes filles. Enfin, à l'occasion des foires grasses, c'est-à-dire celles destinées aux animaux gras qui attiraient toujours beaucoup de monde, il n'était pas rare de rencontrer sur la place, à côté des tentes de forains, les pataches de l'arracheur de dents ou du marchand de cheveux, et en plein vent, la diseuse de bonne aventure et le vendeur de chansons.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
L'abbé Granet, dans son histoire de Bellac, nous parle lui aussi des foires anciennes. La position de Bellac donnait à cette ville, dès le XVIe siècle, une grande importance. Le commerce y florissait, les marchands y venaient de loin pour leurs affaires. C'était un entrepôt pour toutes sortes de marchandises. Les habitants, qui n'avaient point encore de consul, s'adressèrent directement au roi pour lui demander de vouloir leur accorder des foires et des marchés. François Ier fit droit à leur requête et leur en accorda 4, qui devaient se tenir au commencement des 4 saisons. Il leur accorda aussi un marché par semaine. 20 ans plus tard, Henri II leur accorda 6 autres foires, ce qui emportait le nombre à 10 par an. En 1571, Charles IX en accorda une nouvelle. Puis les guerres religieuses vinrent brusquement interrompre cette prospérité commerciale et même un moment, les foires cessèrent de se tenir. Mais elles furent rétablies en 1605 par Henri IV et confirmées en 1611 par Louis XIII.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Les foires et les marchés maintenant à Saint-Sulpice-les-Feuilles avec Roger Drouot. Sous l'Ancien Régime, Arnac, Lussac et Les Chézeaux avaient seuls des foires et des marchés. Lussac en avait primitivement 4, mais à la suite des guerres de religion qui ruinèrent le pays, elles furent abandonnées. Par lettre patente de 1609, Henri IV les rétablit et en créa 2 autres, plus un marché le lundi. Ces foires devaient se tenir le jour des Innocents, le mardi après la Quasimodo, le mardi après la Pentecôte, le jour de la Saint-Étienne, de la Saint-Mathieu et de la Saint-Martin. Elles étaient, dit un document de 1780, destiné à l'approvisionnement de Paris et de la marine. Et elles étaient très fréquentées. Les marchés étaient renommés pour les cochons. À la fin du XVIIIe siècle, ces foires étaient au nombre de 7 et se tenaient le mercredi des cendres, le mardi après la mi-carême, le samedi après Notre-Dame, le 15 mai, le 15 juin, le 15 juillet et le 1er août. Le marché, lui, se tenait les mardis et les vendredis. Les foires d'Arnac, d'Arnac la Poste, étaient tombées en désuétude au moment de la Révolution. À cette époque, les Chézeaux possédaient 2 foires, les 6 novembre et 30 avril, très suivies pour les moutons. Enfin, dans la châtellenie de Lussac, se trouvait une foire importante, celle du pain trémoulois, à côté des Éroles. dont les droits appartenaient au XVe siècle au seigneur de Lussac. Elle se tenait le jour de la décollation de Saint-Jean-Baptiste. La Révolution, qui fit tant pour l'agriculture, organisa les foires et marchés dans presque toutes les communes. Arnac, les sept des mois de Nivose, Ventose, Messidor et Fructudor, plus un marché, le Septidi. Le Septidi, c'est le septième jour de la décade du mois républicain. Au Chézo, des foires le 11 Brumaire et le 11 Floréal. À Lussac, les deux de chaque mois et marché le Septidi. À Saint-Sulpice, Saint-Sulpice-les-Feuilles, foire les quatre Vendémiaire, Frimaire, Pluviose, Germinal, Prairial et Thermidor, marché le Quartidi. La plupart de ces foires ne se maintinrent pas. À Saint-Sulpice, elle n'existait plus en 1820. En 1873, trois foires furent créées les 21 mars, juillet et novembre. Actuellement, c'est en 1904. Toutes les communes, sauf Saint-Martin, Saint-Martin-le-Mau, ont leur foire. Saint-Sulpice le 21 de chaque mois et le 3 décembre, Arnac tous les 7, Cromat possède 6 foires, Les Chézeaux 6, Jouac 6, Lussac tous les 6 et 10 décembre. Saint-Georges en a 6 et Mayac en a 2.
Petites et grandes histoires de la Basse-Marne.
Le préfet Texier Olivier a dressé la liste des foires de l'arrondissement de Bellac en 1808. Voici cette liste. Les foires de l'arrondissement de Bellac se tiennent à Bellac le 1er de chaque mois, à Bessines le 11 de chaque mois, à Bussière-Poitevine le 5 de chaque mois, à Château-Ponsat le 15 de chaque mois, au Chézeau le 1er mai et le 19 octobre, à Sieux le 18 de chaque mois, à Comprignac le 8 de chaque mois, au Dora le 13 de chaque mois, à Laurière le 29 de chaque mois, les 8 mai, 16 septembre et 20 décembre, à Lussac-les-Églises le 10 décembre, à Magnac-Laval le lundi de chaque semaine, depuis le troisième lundi du mois de décembre jusqu'à Carnaval, à Mortemart le 17 de chaque mois et à Rancon le 18 de chaque mois. Sur cette liste des foires de notre zone, on ne trouve pas le bourg de Blon. En effet, l'existence des foires et des marchés est bien sûr fonction des voies de communication. C'est ainsi que dans son Histoire de Blon, Claude Dahadoun nous explique. Le négoce est médiocre à Blon. Il est vrai que le bourg ne tient pas de foire régulière, simplement un petit marché local le dimanche. Et il ajoute. Ce qui fait la richesse d'un bourg ou d'une paroisse, c'est sa capacité à échanger ses productions, aussi modestes soient-elles. Or, Blon se trouve à l'écart des principales voies de liaison et les notables se plaignent de l'état lamentable des routes et des chemins. Certes, les habitants de Blon peuvent se rendre à la foire de Mortemart, qui n'est qu'à 5 km du bourg de Blon. Mais le chemin qui y conduit serpente à travers les champs et les bois par Rousset et il faut plus d'une heure à un attelage avec un seul bœuf pour parcourir ces 5 km. Et il faudra sans doute plus de 3 ou 4 heures pour se rendre à la foire de Bellac, car on passe par le village de Drouille. Certaines foires sont spécialisées, c'est le cas des foires grasses, des foires aux moutons ou des foires aux cochons. C'est ce que nous allons voir avec Louis Peignot. La foire au porc d'abord. C'était un soir du printemps 1840 sur le champ de foire de Saint-Pardoux. Le vacarme assourdissant des porcs que les langueilleurs renversaient de force pour s'assurer qu'ils n'étaient pas ladres en leur écartant les mâchoires avec un bâton venait de cesser. De la bourse de cuir pendue à leur cou sous leur blouse bleue, des marchands sortaient les louis d'or et réglaient leurs achats. Gabriel refermait son porte-monnaie sur les 3 pièces de 10 francs qu'il venait de recevoir pour son porc après les avoir fait sonner discrètement sur un pavé du champ de foire. La foire aux moutons, maintenant. Quand on fut dans les chemins creux bordés de murailles et de chênes, tout alla bien. Les brebis du premier rang suivaient leurs bergères et le reste, masse compacte et docile, piétinait derrière sans s'écarter. Aux abords du champ de foire, la tâche se compliqua. D'autres troupeaux arrivaient de toutes parts, des bêlements grêles commençaient à traduire l'inquiétude de toutes ces bêtes dépaysées. Quelques-unes se détachaient soudain de leur groupe pour se mêler à un autre. Il fallait alors courir, crier, foyer à grands coups de verge, saisir à plein bras les égarés et les ramener de force. Les marchands, en blouse bleue, attendaient avec leurs bâtons de houx suspendus aux poignets. Delors, le plus fréquenté des maquignons de la région, s'approcha des brebis de Françoise et commença à les examiner. Les saisissant par le cou, il soulevait leurs paupières pour déceler et écarter les bêtes ennemies, les brebis boutées. Quand il eut fini le rituel, et interminable marchandage s'opéra. Tout le troupeau, marqué à présent de rouge, était vendu. Il fallut attendre la fin de la foire pour le livrer sur la route de Limoges. Tandis que Pierre empochait ses 25 louis de 20 francs pour le prix de ses 30 bêtes, Françoise regardait une dernière fois ses brebis avec qui elle avait vécu tant d'heures sur les collines. Mais nulle d'entre elles ne semblait se préoccuper de la bonne bergère. Dans leurs yeux pâles, seul se lisait le souci de suivre le gros de la troupe qui se rassemblait. Et quand le signal du départ fut donné, sous les coups de bâton des toucheurs, aux aboiements des chiens d'escorte, les brebis de Douai s'en allèrent, avec les autres, vers leur destin.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
On va à la foire pour vendre, pour acheter, pour faire des affaires, pour se faire arracher les dents, pour payer ses impôts, etc. On y va aussi pour se louer. C'est ainsi que les domestiques agricoles se rendaient en juin au rassemblement de Vieilfond dans la commune de Berneuil pour se louer pour les travaux de l'été dans les champs. Les ouvriers maçons qui veulent se louer se rendent, eux, à la foire de Bussière-Poitevine en février. Écoutons à ce propos Jean-Claude Vigneault dans Marceline et les autres, conte de la Gartempe. Il y a la foire à Bussière en février où l'on va de contremaître en contremaître pour se vendre au plus offrant. Pas de contrat signé, d'ailleurs on ne sait ni lire ni écrire. Seul compte la parole donnée. Ainsi, on se donne rendez-vous dans une semaine sur un chantier à Paris. On ne connaît pas Paris, on ira à pied en couchant dans les granges et là-bas, on se renseignera. On essaiera de trouver une pièce pour s'entasser, pour dormir. À Paris, tout fait peur. Le regard des gens qui vous méprisent, vous trouvent mal vêtu, parle une langue que vous ne maîtrisez pas. Le chantier où l'on vous propose toujours d'effectuer les travaux les plus ingrats, les plus fatigants. Albert Gourceau nous précise ce que sont ces louées ou foires aux domestiques, qui étaient extrêmement nombreuses, surtout au printemps. On se louait soit pour une année entière, soit seulement pour les 4 mois de l'été, de la Saint-Jean à la Toussaint. Et quelquefois, mais très rarement, pour les 8 mois d'hiver et de printemps, ou bien pour la période des gros travaux, les fauches et la moisson. Il y avait ainsi une grande louée et de multiples petites louées. Dans la marche et donc la basse marche, les foires de grande louée avaient plutôt lieu vers le 25 mars, date qui marquait, avec la fin de la saison froide, la reprise des travaux champêtres. Les petites louées se tenaient plutôt d'avril à juin. Le jeune homme qui venait se louer se rendait à la foire accompagné par son père et par sa mère, s'il s'agissait d'une jeune fille. C'était évidemment les parents qui débattaient le montant des gages et, comme dans toutes les affaires où il est question d'argent, cela donnait lieu à des débats longs et passionnés. L'employeur s'informait de l'âge, de la santé, de la force, des aptitudes de son futur serviteur. Les parents discutaient non seulement des gages, mais aussi des conditions matérielles, de l'hébergement, de la chambre, des repas. On discutait aussi des avantages en nature que recevait le garçon une paire de chaussettes, un gilet de laine ou une paire de sabots. Ou, pour les filles, une toison de laine à son choix, que l'on appelait la toison de la bergère. Et cela à Bellac, à Bessines, à Château-Ponsac, au Dora, à Magnac-Laval, à Nantia et à Saint-Sulpice-les-Feuilles. Se rendre à la foire est toute une expédition. Albert Gourceau nous explique. La distance était souvent grande, jusqu'à 30 km. Aussi, lorsqu'on avait du bétail à y conduire à pied, fallait-il compter 8 à 10 heures de marche. On partait la veille, entre 8 et 10 heures du soir, afin d'arriver à la pique du jour au relais auberge que l'on avait l'habitude de fréquenter. C'était là une courte halte pour préparer les hommes et les bêtes. Et lorsque je dis préparer, j'entends d'abord nourrir. Mais il fallait aussi procéder à la toilette, au brossage des bêtes, pour les présenter sous leurs meilleurs aspects. Pour choisir sa place sur le foirail, ajoute l'auteur, il fallait arriver très tôt l'été, avant 6 heures du matin. Le bétail se plaçait en rang. Une personne de la maison, la femme, le garçon ou la jeune fille, tenait l'animal par la bride, tandis que le maître, un peu à l'écart, surveillait discrètement les allées et venues des passants afin de repérer parmi eux un acquéreur éventuel. Les truies et les porcs gras, si bouffis de graisse qu'on ne voyait plus leurs yeux, étaient facilement maintenus en place, pourvu qu'on leur jette de temps à autre une poignée de châtaignes. S'ils faisaient mine de s'écarter, un coup de bâton sur le museau les rappelait à l'ordre. Les moutons étaient les plus sages. On n'avait aucun ennui avec eux en les maintenant bien groupés le long d'un mur ou, de préférence, d'un talus. Par contre, il était absolument nécessaire de parquer les porcelets, que l'on appelle nourrins, car ils ne cessaient pas de se mordre entre eux. On les gardait donc dans des cages en bois. Notons que certains bourgs possèdent des halles couvertes. En effet, dans plusieurs de nos bourgs, il existait des constructions en charpente de bois recouvertes de tuiles courbes. Elles permettaient de mettre à l'abri marchands et acheteurs. Seules subsistent celles de Mortemar, à Mortemar où les foires mensuelles furent instaurées en 1681. C'est un ensemble de 12 piliers supportant une charpente à 4 pans. Mais aussi à Saint-Pardoux. Ces halles datent du XVIIIe siècle. Celle de Périllac et de Montreuil-Sénart, cette dernière de petite taille est située près du lavoir, qui sont, elles, du XIXe siècle. Dans Bramefan-sur-Couze, Louis Peignot nous raconte que la vieille halle de Roussac, qui se trouvait près du cimetière, s'effondra en février 1869. Notons qu'à Bellac, c'est ce que nous rapporte l'abbé Granet, il y avait une halle, celle que les bouchers avaient installée hors de la ville, près de l'abattoir, sur la route de Poitiers à Limoges. Par la suite, il fut décidé par la municipalité que cette halle serait transférée sur l'emplacement compris entre les murs de la ville et la maison du sieur Genébria, officier des écuries du roi, et cela pour permettre aux officiers d'inspecter la viande, car à plusieurs reprises, des viandes de mauvaise qualité vendues par ces bouchers de Bellac avaient indisposé plusieurs familles de la ville. Nous ne reviendrons pas dans la chronique d'aujourd'hui sur le travail des longueilleurs ou sur l'incroyable comédie du marchandage et de la vente entre le vendeur et l'acheteur et sur l'importance d'une tierce personne, l'accordeur. Nous avons déjà traité de tout cela dans une émission précédente. Mais rappelons-nous qu'il arrivait que la transaction durait plusieurs heures. Il fallait encore marquer le bétail avec des ciseaux pour les bovins ou de la craie pour les porcs et les moutons et on se retrouvait à l'auberge devant une chopine. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche, qui fut un retour sur les foires et marchés jadis en Basse Marche. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie d'Albert Gourceau, de Georges Deschera, de Pierre Valin, de Florence de Guy, de l'abbé Granet, de Paul Malbet-Vaqueur, de Roger Drouot, de Louis Texier-Olivier, de Claude Dahadoun, de Louis Peignot et de Jean-Claude Vigneault. Pour les illustrations musicales, nous avons fait appel aux compositeurs Henri Fresneau, Clément Jeannequin, Frédéric Laurent, au groupe Maluzerne, Le Petit Four et Andante Macadam. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Ça va comment, coussi, ça va comment, 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 ça va comment,